Bienvenue sur Slowly, le podcast qui invite à ralentir et éveille au féminin sauvage. Et bonjour à toi. Je te retrouve aujourd'hui pour un petit épisode que j'ai enregistré en compagnie de Tiffen, qui est créatrice d'expériences en nature et sylvothérapeute. J'avais déjà enregistré un épisode avec elle il y a quelques mois et on avait envie toutes les deux de poursuivre cette discussion autour du rôle que peut avoir la forêt sur notre bien-être, la forêt mais les arbres aussi. Comment est-ce qu'on peut simplement et naturellement rentrer en contact avec les arbres? Elle va nous parler aussi de son métier, comment est-ce qu'elle a eu envie de devenir sylvothérapeute. Et puis, on parlera enfin de comment, grâce aux arbres, grâce à la nature, on peut se reconnecter un petit peu plus à nos émotions, à nos ressentis et utiliser cette ressource qu'on a tout autour de nous pour se faire du bien. Voilà. Donc je te laisse écouter ce nouvel épisode, j'espère que ça te plaira et donc bonne écoute.
Bon, nous voilà toutes les deux, Tiffen et moi, pour enregistrer un nouvel épisode du podcast. On se retrouve dans la forêt du Capucin au Mont d'Or. Tiffen a fait le déplacement jusqu'ici du Cantal. Donc je suis super heureuse de t'accueillir une nouvelle fois parce qu'on a déjà fait un petit épisode ensemble il y a quelques mois. Et on avait envie toutes les deux au final d'approfondir un petit peu ce dont on avait parlé la dernière fois. Donc tout ce qui est en fait sylvothérapie, bain de forêt, connexion à la nature, aux arbres. Quelque chose dont tu as fait aussi ton métier, donc merci d'être là, merci d'être partante pour enregistrer ce nouvel épisode ensemble.
Merci à toi de m'accueillir et de vouloir prolonger et approfondir le sujet.
Alors pour celles qui n'auraient peut-être pas écouté l'épisode précédent, est-ce que tu pourrais nous refaire un petit point en fait sur ton parcours et puis ce que tu fais aujourd'hui professionnellement du coup.
Alors concernant mon parcours, j'ai un peu cheminé, pris des voies complètement différentes. Tu sais quand on sort du bac, là qu'on a 18 ans, qu'on ne sait pas quoi faire. Enfin, du coup j'ai fait sciences du langage, je suis opticienne. et après mes études, j'ai voyagé. Et au retour de mes voyages, j'ai fait un service civique dans une ressourcerie. Et après, j'ai enchaîné avec des boulots dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Et donc, j'ai passé une licence pro en coordination de projet en éducation à l'environnement et au développement durable. Et suite à ça, je me suis formée en sylvothérapie. Voilà, donc... ce que je propose aujourd'hui, c'est aux gens d'aller se connecter en nature et surtout du coup en forêt, puisque sylvothérapie, c'est la thérapie par la forêt, sylva, c'est la forêt. C'est ça l'objectif et le métier que je fais aujourd'hui, c'est d'accord. De proposer aux gens d'aller en nature et de se connecter à elle et de se connecter aussi à eux-mêmes, puisqu'on fait partie de la nature. On en est partie intégrante.
Et mais du coup, à quel moment t'as pris conscience ? Alors déjà, à quel moment tu t'es éveillée en fait à la sylvothérapie ? Déjà ça, je pense que ça a dû être peut-être une étape importante pour toi, non ?
On va dire que c'est plutôt une conséquence, une suite logique de mon évolution personnelle. En fait, si tu veux, en éducation à l'environnement, il y a plusieurs approches. Donc, tu as l'approche, par exemple, qui est très moralisatrice des éco-gestes, par exemple, de dire « triez vos déchets ». Et tu as tout un pan d'éducation à l'environnement qui est l'éducation par l'environnement et dans l'environnement. Donc, du coup, de mes études et après de mon stage de fin d'études, je me suis rendu compte que ça, l'éducation dans l'environnement, C'était une approche qui me correspondait beaucoup plus. Parce que aussi, j'ai expérimenté ça moi-même. Donc en fait, j'ai grandi dans des villes principalement. Et après, j'ai été dans des endroits de plus en plus naturels. Donc j'étais dans le Finistère, après j'étais en Lozère. Et maintenant, je suis dans le Cantal. Et donc, je voyais à quel point aussi ça avait un impact sur moi, une influence sur mes comportements, sur justement le rapport que j'entretenais avec la nature. Donc ouais, c'était plutôt une suite logique. Et les éléments déclencheurs, ça a été une retraite que j'ai faite au Portugal, une retraite de yoga spirituel, on va dire. Enfin, ça mêlait yoga et spiritualité, avec des pratiques aussi chamaniques. Et donc là, j'ai vécu des expériences assez fortes qui m'envoyaient, enfin qui me ramenaient aux arbres, en fait. Par exemple, il y a eu un moment où, tu sais, on suroxygène notre corps. Et moi, j'étais tétanisée de la tête aux pieds. Et après, pour revenir à mon état de... À mon état normal, la seule chose que j'ai pu aller faire, c'était mettre mes mains sur un arbre. Et ça m'a calmée instantanément. Et à ce moment-là, j'ai dit à l'arbre, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit, je vais vous aider. Et donc, en fait, je crois que c'est là que ça a commencé. En revenant de cette retraite, je me suis dit, je vais vraiment approfondir la branche de l'éco-psychologie, ce dont je te parlais tout à l'heure, où en fait, tout ce pan d'éducation à l'environnement, on va vraiment se connecter à la nature. Et donc, j'ai fait des recherches de quelle formation pourrait correspondre à ça. Et puis, du coup, je suis tombée sur la sylvothérapie. Et ça m'a parlé. Donc, c'est ça que j'ai fait.
Je t'ai lancée dans cette branche.
C'est le cas de le dire.
Du coup, à quel moment dans la sylvothérapie, on se rend compte, on utilise en fait la forêt, parce que du coup, tu parlais d'éducation à quelque chose, et à quel moment ça peut être aussi l'utiliser pour son bien-être aussi personnel, pour je sais pas, une évolution personnelle, le développement personnel. Je suppose que c'est ça un petit peu aussi qu'on recherche en faisant des séances.
Oui, c'est lié. C'est-à-dire qu'en allant en nature, on va ressentir du bien-être. Et donc la sylvothérapie, moi je la vois à trois niveaux différents, et je la pratique à trois niveaux différents. Il y a le premier niveau qui est le niveau physique, enfin quand je dis premier, il n'y a pas de hiérarchie, mais en tout cas peut-être plus accessible au plus avancé. Donc d'un point de vue physique, on va ressentir les bienfaits de la forêt, donc les terpènes, les phytoncides, les ions négatifs qui font que l'atmosphère forestière est très très pure. Donc voilà, tout ça va nous faire nous sentir bien, on va passer dans le système nerveux parasympathique, donc on va sécréter les hormones du bonheur, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, etc. Donc ça, c'est le premier niveau pour moi de la sylvo. Ensuite, le deuxième niveau, donc comme tu l'as évoqué, c'est un niveau développement personnel. Et là, en fait, on va vraiment rentrer en résonance avec la nature, avec la forêt, ce qu'on appelle la biorésonance. Et là, on va... tout ce qui se passe à l'extérieur nous renvoie à ce qui se passe à l'intérieur. Et donc ça, j'aime bien le faire en individuel. Plus, c'est plus facile à faire qu'en groupe, je trouve. Et on va vraiment aller dans des exercices comme ça, où on va se questionner sur notre chemin de vie, sur par exemple, pourquoi j'ai choisi tel arbre. Comment il est placé dans la forêt. Est-ce que ça représente ma place dans la société? Voilà, c'est... On va être sur un niveau de connaissance de soi et d'apprentissage. Et le troisième niveau, pour moi, c'est le niveau un peu plus spirituel, où là, on est vraiment dans la connexion à la terre-mère, on va aller vers les sagesses ancestrales. Tu vois, je vais pouvoir prendre mon tambour, on va aller dans des états de conscience modifiés. Et ouais, on va se connecter de façon plus spirituelle à la nature, faire plus des rituels. Voilà, c'est pour moi trois façons de faire la sylvothérapie. Alors, des fois, je mélange les trois. On fait des exercices de respiration, puis on fait un rituel, et puis on fait un exercice où on se questionne sur notre personnalité.
D'accord, donc ça à la fois en séance individuelle, en séance collective aussi. Et est-ce que c'est des, comment dire, des exercices que tu peux partager aussi avec les gens pour qu'ensuite, quand ils retournent seuls en forêt, ils peuvent le faire aussi eux-mêmes? Enfin, je suppose que ça se transmet aussi quelque part. Bah, comment faire ça un petit peu seul aussi
Bah oui, après c'est une question d'expérience, ouais. Par exemple, tu vois, quand on fait une connexion à l'arbre, bah après tu peux la refaire à l'identique chez toi, il n'y aura juste pas ma voix qui guide.
Oui, c'est ça.
Mais tu peux complètement le refaire. Et d'ailleurs, dans les box que je vends aussi, c'est des exercices qui sont à vie dans mes accompagnements. Individuel, j'envoie des exercices, tu peux les refaire autant de fois que tu veux. Donc, oui, c'est comme toute expérience, j'imagine, quand tu fais des postures de yoga. Enfin, moi, je sais que j'ai fait des cours de yoga maintenant, il y a des postures que je refais toute seule à la maison. Donc,
mais je pense qu'il y a des personnes qui, peut-être, ont toujours cherché, vont peut-être avoir peur de se dire je ne suis pas capable, moi, en fait, seule. De rentrer en connexion avec un arbre ou avec la nature, qui ont besoin aussi d'être guidés. Et je me dis, est-ce que c'est facile? Enfin, comment dire? Comment est-ce que une personne qui serait seule, qui aura envie d'aller rentrer en connexion avec un arbre, comment est-ce qu'elle peut le faire aussi de façon simple, d'une façon abordable en fait? Comment est-ce qu'on pourrait rentrer quelque part en connexion avec un arbre, par exemple?
La façon la plus simple, c'est de s'asseoir au pied de l'arbre et, tu vois, de se mettre dos contre lui. C'est la façon la plus simple et la plus accessible. Parce que moi, il y a des connexions que je fais qui peuvent venir chercher des choses, des traumas.
Oui, ou là, c'est mieux d'être guidé, du coup.
Des choses pas évidentes, ouais. Même il y a des gens, dos contre un arbre, c'est très compliqué aussi. Mais je dirais que c'est ça. Le plus accessible, c'est de s'asseoir au pied de l'arbre, de se mettre dos à lui, de sentir les points de contact qu'il peut y avoir, de respirer, de poser ses mains sur ses racines.
Ouais.
Et puis,
Parce que des fois, je pense pour celles qui ne connaissent pas du tout, souvent on en entend parler comme quelque chose d'un peu bizarre peut-être, ou, tu vois, alors qu'en fait, comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a peut-être juste besoin de, comme tu dis, d'être à côté d'un arbre, juste en présence et de voir ce qui vient. En fait, des fois, ça peut être juste ça. Il n'y a pas besoin non plus de se faire... des fois, tout un truc de qu'est-ce que ça peut être, comment on peut faire. Quand on recherche quelque part juste à être un peu plus connecté à la nature. Et c'est par des petits pas, des fois, qu'on peut commencer seul avant de plonger quelque part plus en profondeur dans toutes les dimensions que ça peut être aussi.
Carrément. Carrément. Et c'est sûr que oui, il y a une dimension qui peut... Il y a peut-être aussi les a priori, le jugement, parce que si par exemple on est sur un chemin, on sait qu'on va nous voir. Je conseille, si on a un peu peur du regard des autres, c'est ok. Enfin, je veux dire, on a tous à un moment donné peut-être tous et toutes ressenti ça. Donc voilà, s'écarter peut-être, s'isoler, ne pas avoir peur de s'écarter un petit peu du chemin principal et de le faire, voilà. Et de ne pas se juger soi-même. Si on a envie de le faire, c'est sûrement qu'on en a besoin. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller, à se faire confiance.
Et toi, du coup, en tant que guide, un petit peu dans cette thérapie, comment tu as su que tu avais envie de guider les autres personnes à rentrer dans cette pratique, dans cette conscience de la forêt, des arbres?
C'est une bonne question. Ça peut être une double question. Comment j'en suis venue à vouloir accompagner et comment j'en suis venue à vouloir accompagner les gens en forêt, du coup.
Tu pourras me demander après moi, ça, pour le yoga, comme ça. J'aurais du mal à répondre aussi, je pense.
Non, mais c'est qu'en fait, j'hésite à partager un truc. Je ne sais pas si ça peut répondre à la question. En fait, à un moment donné, ça a été comme une évidence. Donc, comme je t'ai dit, tu sais, auprès des, enfin pour moi d'être auprès des arbres par ma première expérience au yoga, à la retraite de yoga. Et aussi quand j'ai fait ma formation, il y a eu un moment très très fort où on était dans une forêt où il y avait eu beaucoup de coupes. Et en fait, je m'approchais d'un arbre, je me mettais à pleurer. Je pleurais. Je m'écartais quand j'avais plus de larmes. Je m'approchais d'un autre arbre, je recommençais à pleurer. Et ainsi de suite. Et donc en fait, à ce moment-là, j'ai compris que c'était pas ma peine, mais que c'était celle des arbres. Et j'ai reçu le message que si je m'exprimais pas, les arbres pourraient pas s'exprimer non plus. Donc du coup, à partir de ce moment-là, ça a été comme une évidence pour moi qu'il fallait que je reconnecte les gens aux arbres et à la forêt et après à la nature de façon plus globale. Mais la forêt, c'est vrai que j'y tiens particulièrement. Donc ça, c'est pour la partie amener les gens à la forêt.
Mais c'est beau déjà ce que tu as dit. Si je peux partager une petite anecdote aussi. J'ai fait un seul bain de forêt dans ma vie. Je ne sais plus si je l'avais raconté la dernière fois.
Tu avais dit que c'était une expérience de groupe assez forte.
Ouais. Ah ouais, je l'avais déjà dit alors. Ouais, du coup, je leur dis.
Vas-y. Mais non, mais je sais que tu n'as pas dit la même chose.
Peut-être pas. Il y avait eu tellement plein de trucs de forts durant cette séance. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'avais une grosse montée d'émotions. Un peu aussi dans cette sensation de devoir, enfin, pas de devoir, mais comme si, oui, les arbres avaient besoin quelque part de faire passer un message à d'autres qui peut-être n'ont pas pris conscience de certaines choses. Et ça avait été vraiment tellement fort que je m'étais dit, enfin, voilà, enfin là, je ne veux pas du tout en faire mon métier, mais je m'étais dit, il faudrait que j'arrive aussi à transmettre quelque chose dans ce sens-là, tellement c'est fort, en fait, et... Et c'est vrai que ça m'avait un peu je m'y attendais pas en fait. Du coup c'était c'était assez fort émotionnellement. C'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter quand on fait ce travail
Ouais, complètement, c'est incroyable. On se rend pas compte à quel point ça peut venir nous chercher. Et ça vient nous chercher énergétiquement parce que l'émotion c'est de l'énergie en mouvement. Et donc l'arbre, comme nous, a un corps énergétique qui du coup va rentrer en relation avec le nôtre. Et ça vient faire bouger des choses. Là, tu vois, au mois de juillet, j'étais avec un chêne. Et moi, j'ai souvent du mal avec les... Enfin, j'avais du mal avec les chênes. Le chêne, c'est la figure du père, du patriarche. Donc, du coup, ça me renvoie à mon histoire perso. Et vraiment, j'avais beaucoup de mal à approcher les chênes. Et là, au mois de juillet, j'ai été voir un chêne, je me suis connectée à un chêne hyper puissant. J'ai pleuré. Enfin, ça me nettoyait, quoi. Ça vidait tout ce que j'avais à purger, entre guillemets, de toutes les émotions que j'avais cristallisées. Et donc, oui, ça arrive d'avoir des émotions, mais ça peut être toutes les sortes d'émotions. Moi, j'ai aussi de la joie. J'ai pas encore vu de colère, mais les pleurs et la joie, ça peut être fréquent. Et la peur aussi. Donc, ouais, c'est sûr que ça vient chercher des émotions quand on fait en conscience aussi. Et c'est beau. Est-ce que tu nous as partagé ta petite expérience de ton bain de forêt? C'est un message, c'est un message assez fort. Je pense que l'humain, il s'est déconnecté de... Enfin, historiquement, tu vois, l'homme et l'humain et l'arbre ont quand même une histoire assez forte. L'arbre a été énormément sacralisé. Les arbres à vœux. C'était des temples quasiment aussi pour certains. Beaucoup d'arbres sacrés. Et donc, je pense qu'il y a toujours ce lien quand même en filigrane, tu vois, c'est un héritage qu'on a encore, mais qui nécessite d'être renoué, d'être remis à sa juste place. Donc, c'est le message aussi que j'ai eu, enfin voilà, de dire, de créer ce pont du coup, entre les humains et les arbres. C'est comme ça que je me vois, de faire le lien, de créer le pont. Et du coup, j'adore accompagner les gens, parce qu'au fur et à mesure, moi aussi, de mon évolution personnelle auprès des arbres, notamment, je me rends compte que j'ai des qualités d'écoute, d'empathie, de discernement. Et pour moi, c'est tellement beau de voir quelqu'un qui prend conscience de certaines choses à son sujet et qui s'en libère grâce à la forêt, grâce aux arbres. Mais pour moi, c'est un vrai cadeau de voir ça. Voilà, pour finir de répondre à ta question.
Sur les accompagnements. Merci pour ça. Et j'avais bien envie d'enchaîner sur en fait comment est-ce qu'on peut faire le lien entre sylvothérapie et quelque part féminin sacré. Donc là, plus sur la thématique du féminin, de ces énergies de femmes, que ce soit en rapport avec ses cycles menstruels, avec une étape de sa vie, je ne sais pas, la maternité ou d'autres étapes de la vie d'une femme. Est-ce qu'on peut aussi jouer avec ces thématiques-là, quelque part en séance, par rapport à la connexion aux arbres? C'est ce que je me demandais, en fait.
Donc, si je comprends bien ta question, c'est quel lien, quel thème on peut aborder en sylvothérapie qui soit en lien avec le féminin, avec les cycles de la femme et ses étapes de vie. Alors, on peut carrément accompagner une femme enceinte, par exemple. Ça peut se faire en sylvo. J'ai envie de dire, à peu près tous les thèmes peuvent se faire. Après, du coup, il y a des arbres qui vont être plus indiqués que d'autres pour que la femme aille connecter à son essence féminine. Donc voilà, c'est pas forcément le thème de la sortie, mais en tout cas de moi, en tant que sylvothérapeute, si je t'accompagne et que je sais que c'est ça que tu veux aller travailler, ben on va aller auprès de ces arbres-là en particulier. Après, par rapport au cycle, j'ai pas trop de réponse à ça. C'est pareil aussi, il y a des arbres qui vont donner plus de courage, plus un caractère guerrier, donc tu vois, ça pourrait être associé à la phase de l'été. Il y a des arbres qui agissent plus comme des thérapeutes. Donc pareil, au moment de notre phase automnale, qui est celle où on se remet en question, on pourrait aller voir aussi ces arbres-là. Donc le lien que je vois, c'est plutôt l'essence d'arbre par rapport au moment de notre cycle.
Peut-être des rituels aussi en particulier qui sont, je sais pas, peut-être plus connecté à la féminité, ou on peut se connecter aux ancêtres féminines ou des choses comme ça, je ne sais pas.
Carrément, bah oui.
Ça peut être chouette.
Ouais, les rituels, effectivement, il y a des rituels on peut faire des rituels de la féminité en utilisant les éléments de la nature. Et en fait, j'ai envie de dire aussi, qu'en tant que femme, on a quand même une connexion particulière aussi à la nature. Alors, je ne dis pas que les hommes ne l'ont pas, bien au contraire, on l'a tous les deux, enfin les deux genres l'ont, mais de façon différente. Et c'est vrai que historiquement, si on va du côté de l'écoféminisme, la femme a été associée à la nature. Et du coup, le lien qu'on peut faire, c'est la domination du patriarcat. Enfin, du coup, la domination de l'homme sur la femme et la domination de l'homme sur la nature. Comme la femme et la nature ont été associées, du coup, l'homme domine les deux. Et se permet tout et n'importe quoi sur les deux, tu vois. C'est des objets. Mais donc, historiquement, tu vois, la femme est très associée à cette nature. Donc, j'ai envie de dire quelque part, c'est aussi retrouver son pouvoir de femme que d'aller se connecter à la nature et que d'en connaître ses sagesses, ses secrets, de tous les apprentissages qu'elle a à nous offrir. Pour moi, c'est une reprise de pouvoir. Encore plus grande, peut-être, pour les femmes, parce que justement, elles ont été associées à ça et que la terre mère a vécu les mêmes souffrances, la même soumission que les femmes vis-à-vis des hommes. Voilà. Mais je dis pas ça, enfin après, je jette pas la.
Non, mais c'est une réponse que je trouve très intéressante. Non, c'est vrai. Je suppose que toi aussi, en tant que femme, tu dois partager des choses particulières quand tu fais une séance avec une femme. Enfin, ça doit être aussi. Je sais pas, il y a peut-être des connexions qui se font de femme à femme aussi, je sais pas.
Alors, moi, c'est vrai que je suis assez humaniste. C'est-à-dire que. Je sais qu'il y a des femmes qui sont faites pour guérir les blessures du féminin, enfin pour accompagner ces guérisons-là. Moi, c'est pas forcément mon cas. Moi, je sais que autant une femme qu'un homme, pour moi, c'est la même chose. Donc, pas spécialement, enfin, pas forcément. Après, peut-être. Ouais, non. Moi, dans mon cas, en tout cas, c'est la même chose pour moi d'accompagner un homme ou une femme. Je sais aussi que je ressens que dans ma mission et les choses que j'ai à apporter, c'est de pas justement mettre les hommes de côté. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres pour les hommes.
Ça, c'est vrai.
On parle beaucoup du féminin sacré, etc. Ouais. Mais pour moi, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. On ne pourra pas s'en sortir s'il y a un genre qui est mis de côté. Et du coup, ce serait faire ce que nous, on aurait subi. Donc, voilà. Mais c'est vraiment personnellement aussi que je sens que j'ai souvent besoin ça aussi. Des deux. Enfin, que les deux ont besoin de mes capacités, de mes qualités.
Et tout à l'heure, tu parlais justement comment on peut jouer avec la saison pour travailler avec les arbres. Alors si on parle de la saison actuelle, de l'été, comment est-ce que toi t'abordes ça en séance par rapport à la saison justement ? Alors que ce soit la saison en termes de période de l'année, mais aussi peut-être on en parlait aussi de la saison intérieure par rapport à l'été, en fonction de l'énergie du féminin. Est-ce qu'il y a des arbres en particulier auxquels on peut se relier à cette saison ?
Alors, c'est vrai que dans une séance, je ne prends pas forcément en considération la saison.
Mais par exemple, tu fais peut-être plus de séances du coup l'été que l'hiver. Pourquoi, tu vois ?
Alors, je fais plus de séances l'été que l'hiver. Ça, c'est sûr. Plusieurs raisons. Déjà, le temps. C'est plus agréable d'être dehors quand il fait beau et plus chaud. En plus, on fait beaucoup d'exercices lents. C'est quand même... c'est un peu une ode à la lenteur. Il y a un participant qui m'a dit ça. C'est une ode à la lenteur. Donc, on fait beaucoup de choses lentes. Donc, s'il fait 7 degrés, tu vois, c'est quand même moins agréable. Et autre chose, pourquoi je ne fais pas de sylvothérapie en hiver, c'est parce que les arbres, toute l'énergie des arbres est concentrée dans les racines en fait. Et c'est juste pour respecter le cycle des saisons. En hiver, on se repose, les arbres se reposent et nous aussi on est censé se reposer. Moi je me repose, donc du coup c'est pour ça que je ne fais pas de sortie en hiver. Mais après l'été du coup qui est considéré, enfin qui est la saison du feu intérieur, on peut aller sur des choses ludiques, sur de la musique, pourquoi pas de la danse, tout est possible après. Mais c'est vrai que pour l'instant je n'intègre pas forcément la thématique de la saison à mes séances. Et sinon il n'y a pas d'arbre plus indiqué qu'un autre pour la saison estivale.
Mais je suppose du coup que comme il y a toutes les... Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose. Mais du coup, par rapport aux feuilles, à ce qui peut être dégagé du coup aux saisons où les arbres ont encore leurs feuilles, ça a certainement un impact quand on se balade par rapport à l'hiver aussi.
Bah oui, c'est ça. Ouais. Du coup, en fait, en été, les terpènes et les phytoncides qui sont présents donc, dans les arbres, qui sont émises, les molécules qui sont émises par les arbres, vont être beaucoup plus dégagées du fait de la chaleur.
Ouais, ouais.
Donc du coup, on en profite plus. Et puis, nous, dans notre région, on a la chance d'avoir des conifères en nombre. Et du coup, on a ça encore, on a encore ces molécules en hiver, mais du coup, moins, vu qu'il fait moins chaud, ça se libère moins.
Ouais.
Mais les conifères, tu vois, gardent ces... stocke ces molécules aussi dans la résine. Dans donc du coup, on y a plus accès.
Ouais.
Mais oui, c'est sûr que du coup, les arbres, enfin, quand il n'y a plus de feuilles aux arbres, il y en a moins. Mais après, c'est des molécules qui sont présentes dans toutes les parties de l'arbre, pas que dans les feuilles.
Dans l'écorce aussi.
L'écorce, les racines, partout.
Ah ouais. D'accord. Et... alors du coup, l'été, qu'on se balade en forêt ou qu'on décide de faire d'autres activités, ça peut être propice aussi à faire des bivouacs en forêt. J'avais bien envie d'en parler aussi dans cet épisode et aussi parce que toi, là, tu t'apprêtes à dormir ce soir quelque part dans la forêt ou dans la nature. Et c'est souvent, c'est souvent une activité que j'aimerais faire en été, mais au final, des fois, j'ai du mal à sauter le pas, surtout pour le faire seul. Du coup, j'avais bien envie que peut-être que tu nous donnes des petits conseils ou comment se préparer, comment sauter le pas, comment trouver un bon endroit en forêt pour bivouaquer. Déjà ça.
Avant, j'ai envie de te poser une question.
Oui.
Non, mais c'est une question un peu intéressée, tu vois.
Ouais.
Pourquoi tu as peur de sauter le pas? Qu'est-ce qui te fait le plus peur?
En ce moment, parce que je pense que j'ai des peurs différentes en fonction des moments. En ce moment, en fait, comme... Alors, il y a aussi le fait que j'habite déjà dans un endroit inspirant. Donc, je me dis que déjà, profite un petit peu quelque part de la nature environnante tout en ayant le confort de chez moi. Et j'ai peur du coup, je pense que j'ai peur de d'autres personnes qui pourraient venir m'agresser dans la nuit.
Voilà, on y est. En fait, on a plus peur de notre propre espèce que des autres.
Ah oui, ah non mais c'est carrément. C'est incroyable. Ah non, ça
on
c'est
est
sûr.
Arrivé à un stade, on a plus peur des autres humains que d'un renard.
Ah oui,
ou
ah non,
d'un
ça, ça me fait pas peur, non.
C'est incroyable. Enfin, moi, ça me fascine. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui pourrait me faire peur ou qui, des fois, me fait peur quand je suis en bivouac. C'est de me dire s'il y a un mec qui m'a repéré.
Moi, c'est
ça. Qui l'a repéré, que j'étais toute seule au milieu des arbres et que personne m'entendra si je crie.
C'est ça.
C'est ça qui me fait plus peur. Ouais. Et il y a aussi autre chose qui peut faire peur parce qu'on pourrait se dire qu'on a peur de la nature. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par François Terrasson là-dessus qui s'appelle « La peur de la nature ». Et le concept, c'est de passer des nuits en forêt. C'est bon ?
Oui.
C'est de passer des nuits en forêt. Et en fait, il en conclut que les gens ont peur de la nature. Parce qu'ils ont peur de passer des nuits en forêt.
Ouais.
Mais est-ce qu'on a peur de la nature ou est-ce qu'on a peur du noir, par exemple ?
Ouais.
Parce que moi, je sais que j'ai peur de ce que je ne vois pas. Si j'entends quelque chose mais que je ne sais pas ce que c'est, ça va me faire plus peur que si je vois que c'est un renard qui passe, tu vois. Donc voilà, il y a cette dimension-là aussi à se poser. Ouais. Est-ce que j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver, des bêtes? Est-ce que j'ai peur de l'homme ou est-ce que j'ai peur du noir? Et après, j'ai envie de dire aussi, c'est une question d'habitude, c'est comme pour tout. Quand on ne connaît pas, on a peur. Donc oui, en forêt, il y a des bruits qu'on ne connaît pas. Mais une fois, on va entendre. Deux fois, on va entendre. Trois fois, on va entendre. On va dire, ok, c'est bon, je connais les bruits, donc j'en ai plus peur. Et oui, la forêt, ça fait du bruit. ça fait énormément de bruit, des bruits qu'on ne connaît pas forcément.
Oui, on n'est pas habitué aux cris des animaux aussi.
Ouais,
alors, un renard, par exemple, on dirait, ah, c'est ça, en fait. Enfin, ou même le sanglier. On n'est pas habitué aux sons que peuvent faire les animaux.
C'est ça. Ouais, donc, bah, pour sauter le pas, il faut le faire une première fois. Et puis après, c'est une pratique. Et moi seule, c'est vrai que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Et puis bah, ça s'est bien passé quand même. Les conseils, bah, trouver un endroit plat. Alors, on en parlait là juste avant d'enregistrer. C'est vrai que moi, je préfère être du coup cachée à l'abri des arbres, être dans un petit cocon, plutôt qu'être dans une prairie en lisière de forêt dégagée. Mais ça, c'est des préférences personnelles. Je ne sais plus ce que c'était les autres questions. C'est de ressentir l'énergie du lieu aussi. Moi, c'est comme ça que je fais. En fait, je me promène et je me dis, enfin, et je me sens appelée. Ou alors, vraiment pas hésiter aussi si on le sent pas.
Ouais.
Bah, dire, bah non, je vais un peu plus loin et peut-être que je vais trouver un truc plus agréable. Ah oui, et un autre conseil. Du coup, moi, je regarde le passage des animaux, ce qu'on appelle des coulées. Et donc, évidemment, on ne se met pas, on met pas la tente sur une coulée d'animal parce que. Voilà, il y a des risques.
Ouais, c'est vrai.
Donc, je fais attention à ça. Voilà, pas me mettre dans les herbes hautes. Et puis, c'est tout.
Donc, du coup, pour surmonter la peur de l'humain,
c'est
vrai que c'est... Bon, après, c'est sûr que si on a un téléphone avec du réseau, déjà...
Alors, s'il y a quoi que ce soit et que vous n'avez pas de réseau, appelez le 112. Ça marche quand on n'a pas de réseau.
C'est vrai.
Voilà.
Ah, c'est bon à savoir ça.
Les secours, voilà. Peu importe votre carte SIM, peu importe si vous avez du réseau ou pas. Le 112, ça passe. Si vous arrivez quelque chose. Pour vous rassurer, vous pouvez envoyer votre localisation à quelqu'un. Les premières nuits, tu sais, où j'étais en tente et tout, ben, avec une copine, mais on avait peur justement, on entendait des bruits vraiment qui ressemblaient à des pas d'hommes et tout. Nan, nan. J'étais près de la tente avec mon couteau à la main. Au cas où il y a quelqu'un qui ouvre la tente, j'étais prête avec mon petit couteau.
Non, mais c'est vrai, on peut prévoir si ça peut rassurer une petite bombe.
Voilà.
Si ça peut rassurer nos peurs quelque part.
C'est ça.
Pourquoi ça vaudrait le coup, du coup, de surmonter ça, de faire cet effort? Pourquoi, en fait? Quel plaisir, toi, tu y trouves, au final, quand t'as sauté le pas?
Bah, comme on disait tout à l'heure, les réveils en forêt, c'est juste magique. Et puis, moi, en fait, la forêt, pour moi, c'est ma maison. Donc, c'est comme dormir à la maison pour moi. Et c'est, c'est le plaisir de me dire « je suis retournée aux sources ». Je suis dans un milieu naturel et je suis plus proche de ma nature animale, même si on est d'accord, j'ai encore le confort, hein, la tente, le matelas, le duvet, etc. Mais ouais, c'est ce plaisir-là, c'est ce plaisir de se dire j'ai dormi en nature. C'est assez plaisant.
Et quelque part, on dort sur la terre, donc c'est puissant aussi.
Aussi. Ouais, électriquement.
Ouais.
Ouais.
Parce que c'est rare au final les temps où on dort sur la terre.
Bah, surtout avec les immeubles maintenant.
Bah, c'est ça. Dernier étage.
Six pieds de longue.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et comme tu dis, ça c'est un point important aussi. C'est-à-dire que bah, j'avais dit la dernière fois, enlevez vos chaussures parce qu'en fait la terre elle est chargée électriquement. Nous on est chargés électriquement. Et donc en fait il va y avoir un échange. Et notamment ça permet de diminuer tout ce qui est inflammatoire. L'arthrose, les rhumatismes.
Ah ouais.
Voilà, marcher pieds nus. Ça permet de libérer, de faire circuler la charge électrique.
D'accord.
De ne pas l'accumuler en soi.
Il y a quelque chose, moi, que j'aime bien quand je me réveille dans la nature. Alors, au-delà des sons qui peuvent faire peur, justement, c'est tous les sons des oiseaux, les lumières, mais surtout les sons quand même. Quand on se réveille avec les oiseaux, c'est quand même...
C'est pas pareil.
C'est... Alors que toi, t'es dans ta chambre, entre quatre murs, t'entends rien de ce qui se passe dehors. Et là, de se réveiller avec ça, c'est... En fait, tu te réveilles en même temps que la nature et ça, c'est... Il y a une connexion qui se fait en plus de se dire que tu te réveilles en même temps que les oiseaux, que les animaux... Ouais. Ça, je trouve ça super. Bon, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Acheter un bon duvet et partir.
Ouais. Et oui, et être le plus respectueux possible, ne rien laisser derrière soi.
Parce que là, c'est important de le dire. Ouais.
Enfin, par chez moi, j'en ai moins que dans le Puy-de-Dôme, mais là, tous les papiers toilettes là, que j'ai vus, moi, en sortie, je dis, vous prenez un sac avec vous et on ne laisse rien derrière. Même les papiers toilettes, on les ramasse. Donc, voilà aussi, petit moment sensibilisation.
Ouais, ouais, non, mais c'est super important. C'est vrai que ça, on essaye de le dire aussi bah, pour ce qui est quand on voyage en véhicule aménagé et qu'on dort aussi en nature. C'est vrai que c'est super important de faire attention à ça et surtout pour le papier toilette, j'ai envie de dire. C'est ce qui reste le plus souvent sur les emplacements.
Et puis c'est pas agréable. Enfin, je veux dire, je pense que personne n'aime arriver à un endroit et voir tous les papiers toilettes.
Ouais, c'est ça.
Personne. Donc faisons l'effort de les ramasser.
Bon, bah, merci pour ces petits conseils du bivouac. Et pour clôturer tout tranquillement là, l'épisode, est-ce que tu as envie de nous dire ce que toi tu prévois un petit peu pour les prochains mois, tes projets un petit peu futurs qui se mettent en place, ce que tu as envie de faire?
Alors moi, c'est vrai que j'ai du mal à projeter. Tu vois, souvent, on me demande, tu fais quoi le mois prochain? Je suis toujours celle qui répond, je sais pas.
Et même professionnellement, je sais pas trop encore.
C'est vrai que c'est un truc que je fais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que justement, il y avait un programme sur l'écoféminisme que je voulais faire. Je m'y suis pas encore trop penchée. Tu vois, je voulais le sortir en septembre et au final, j'ai pas eu du tout le temps de le faire. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, mais c'est un truc qui m'intéresse et que j'ai envie de faire. Et sinon, j'ai envie de proposer des rituels, des rites de passage pour les enterrements de vie garçon, les enterrements de vie de jeune fille. Vraiment de célébrer un cap, tu vois, même un âge important ou, je ne sais pas, un changement de vie. Je trouve qu'on a perdu ça. Ouais, en forêt, on a perdu ça. Et je trouve que, enfin, je pense que c'est important de retrouver ces rituels. Donc, j'ai bien envie de proposer ça et puis après de m'orienter plus, plus aussi sur les séances individuelles. Parce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer, de pouvoir aller en profondeur dans le développement personnel avec une personne en face à face. On va plus loin dans la relation et c'est plus intéressant. Pour moi. Et puis peut-être qu'on fera des choses ensemble, du coup.
On en discutait tout à l'heure, de cumuler yoga et méditation et ça, est-ce que tu fais toi, tout ce que tu fais. Ça va être super chouette. Donc peut-être qu'on fera quelque chose dans le Cantal ou en plutôt Puy-de-Dôme.
À voir.
Ouais. Et c'est vrai que ça pourrait être vraiment sympa vu qu'on n'habite pas très loin.
Et ce qui m'appelle aussi de plus en plus, c'est de fêter les fêtes païennes. Donc, je pense que je vais faire aussi des sorties spéciales à ces occasions-là. Ah oui, et aussi un truc que j'ai envie de faire, c'est de créer un groupe de local, de locaux, près de chez moi, pour vraiment créer un groupe, créer un cercle où une fois par mois, on se réunit. Et parce que ça fait deux fois qu'on me demande est-ce que la sylvothérapie c'est comme le yoga et est-ce que du coup on peut aller plus loin dans la pratique, s'améliorer, etc. Ah ouais. Et du coup je trouve ça hyper intéressant de créer un groupe pour justement avec ce groupe pouvoir progresser, aller de plus en plus loin dans la pratique. Donc ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi. Si vous êtes dans le Cantal ou dans le Puy-de-Dôme et qu'une fois par mois vous avez envie d'expérimenter ça, ça pourrait être chouette aussi. Sachant que du coup en hiver on sort pas forcément, mais il y a quand même des choses à faire en intérieur aussi. On peut faire du culinaire, on peut faire la sylvothérapie d'intérieur, ça fonctionne. Justement peut-être plus l'occasion d'un rituel. Donc voilà.
Ok, bah super. Je crois que je vais venir plus souvent.
J'ai toujours plein d'idées, moi. Je me projette pas, mais par contre,
Ça fuse en idée.
J'ai toujours envie de faire
C'est trop bien. C'est trop bien. C'est chouette. Et du coup, on peut te retrouver sur ton site pour suivre tout ça.
Ouais, sauvagementvotre.com.
Sauvagementvotre.com. Et sur Instagram aussi,
pareil, je crois. Pareil, sauvagement.votre.
Super. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Ça se rafraîchit un petit peu là, nous. Je commence à avoir les pieds un peu froids. Mais c'est chouette d'avoir enregistré cet épisode en forêt. Donc, merci beaucoup à toi. Et puis, bon, bah, on se dit à bientôt alors.
Ouais, à bientôt. Merci.
Voilà, cet épisode en compagnie de Tiffaine est terminé. Si tu n'as pas écouté le premier épisode qu'on avait enregistré ensemble, je te propose d'aller le faire. J'espère que l'épisode t'a plu et de mon côté, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode et puis en attendant, passe une bonne journée, une bonne semaine. Je te dis à très bientôt.